Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et il est 8h, très bon dimanche à tous.
Un démenti cinglant de cette enquête qui est à mon sens une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années.
5 ans après l'incendie d'une voiture de police à Viry-Châtillon, 5 jeunes ont été condamnés, 8 autres ont été acquittés en appel. Le verdict a provoqué des affrontements en pleine salle d'audience.
De plus en plus de Français refusent de se faire administrer le vaccin AstraZeneca. Faute de candidats, certains centres de vaccination sont tout simplement obligés de fermer.
En pleine période de foire au vin, certains prix interpellent. Des bouteilles de Bordeaux sont vendues à moins de 2 euros. Les cours sont en chute libre et les vignerons n'ont pas le choix. Ce sera le dossier de ce journal.
Enfin, deux Français brillent sur le circuit de MotoGP. La discipline est peu connue en France, mais c'est peut-être en train de changer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc l'information de la soirée, Marguerite. Ce verdict dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon.
En 2016, une vingtaine de jeunes avaient attaqué au cocktail Molotov deux voitures de police. Le procès en appel s'est achevé hier soir après 14 heures de délibération. La cour d'assises a condamné 5 accusés et en a acquitté 8 contre l'avis du parquet général.
Mais hier soir, le verdict a provoqué des affrontements dans la salle d'audience. Gladys Laffitte, vous étiez sur place pour Europe 1 et vous avez assisté à ces bagarres.
Oui, à tel point que la présidente n'a pas pu aller au bout de la lecture du verdict, tout simplement parce qu'une bagarre générale a éclaté dans le box une fois les peines prononcées. Des dizaines de gendarmes ont dû être mobilisés pour contenir les violences et évacuer la salle très tendue. Difficile d'en connaître la raison exacte, mais une grande confusion régnait entre abattement pour les condamnés et soulagement pour les 8 acquittés et leurs avocats, comme maître Sarah Mogé-Poliac.
C'est un démenti cinglant de cette enquête qui est pour, à mon sens, une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années, à minima, ça va être un second tour maintenant. Réparer ce qui, en réalité, pour ces jeunes, en tout cas pour le jeune que je défends, ne sera en réalité, je pense, jamais réparable.
Du côté des parties civiles, c'est la consternation face à un verdict plus clément qu'en première instance. 8 acquittés au lieu de 5 et des peines allant cette fois de 6 à 18 ans de réclusion pour 5 accusés. En première instance, 8 personnes avaient été condamnées, jusqu'à 20 ans de réclusion avaient été prononcées.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Autre actualité ce matin, Marguerite, le vaccin qui n'en finit pas de poser question.
Oui, la formule AstraZeneca et ses graves effets secondaires. 9 nouveaux cas de thrombose ont été détectés en France et symbole du scepticisme qui gagne la population, le centre de vaccination de Nice, faute de candidats, a dû fermer hier, il rouvrira demain. À Douai également, la psychose commence à s'installer. Reportage de Maximilien Carlier.
Dans ce centre, il y a des chaises vides. Peu de candidats à l'injection sans rendez-vous. Christophe, 58 ans, était pourtant bien prêt à se faire vacciner à une seule condition.
Pas d'AstraZeneca. Si c'est AstraZeneca, je m'en vais.
C'est de l'AstraZeneca.
C'est de l'AstraZeneca ? Bon, bah voilà, je vais vous laisser alors. C'est retiré dans certains pays, etc. Donc je vois pas pourquoi je prendrais le risque. Je préfère garder mon masque dans ce cas-là.
Et il n'est pas le seul à avoir fait demi-tour. Parfois, comme l'explique ce médecin, il y a une certaine tension avec les personnes âgées.
Papy de 90 ans qui arrive. Je fais de l'accueil aujourd'hui. La première question qu'il pose, c'est bien Pfizer, avec une agressivité qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ce genre de patients.
Des patients qui vont même jusqu'à vérifier ce qui est écrit sur la seringue pour savoir si on leur injecte bien autre chose que de l'AstraZeneca. En fait, c'est surtout l'adhésion à ce vaccin qui est compliquée.
C'est un gros boulot de négociation. Les consultations de vaccination, elles durent longtemps à cause de l'AstraZeneca.
15, 20 minutes, voire plus, alors qu'une consultation avec le Pfizer ne dépasse pas les 5 minutes. Douai, Maximilien Carlier, Europe 1.
Face aux craintes, les autorités veulent rassurer. Il faut continuer à utiliser ce vaccin. C'est le message de la présidente du comité scientifique sur les vaccins, Marie-Paul Kieny.
Le problème, c'est qu'une fois qu'un mouvement de panique est lancé, c'est très difficile de l'arrêter. Il faut quand même bien dire que ces effets secondaires et les thromboses très particulières sont extrêmement rares. On est en train de parler à quelques cas par million de personnes vaccinées. Il y a des gens qui, pour la raison de leur âge ou de leur maladie, qui ne peuvent être vaccinés qu'avec des vaccins ARN. Ici, les gens qui peuvent être effectivement vaccinés en toute sécurité avec du vaccin AstraZeneca arrêtent et insistent pour avoir celui-là aussi, ça veut dire que les autres ne pourront pas y avoir accès et que toute la campagne de vaccination va se traîner en longueur. On va prendre beaucoup plus de temps à arriver à se débarrasser de cette troisième vague qu'on a actuellement de Covid-19.
Marie-Paul Kieny du comité scientifique sur les vaccins avec Marion Gauthier. À ce jour, 12,5 millions de Français ont reçu une première dose. Et puis dans les hôpitaux, peut-être le premier signe d'une amélioration, le nombre de patients en réanimation est en baisse.
Le gouvernement veut répondre à la détresse des agriculteurs. Le Premier ministre a annoncé hier donc le déblocage de 1 milliard d'euros.
Pour aider ceux dont le gel a détruit les cultures, des arboriculteurs notamment, et des vignerons qui étaient déjà touchés par une autre crise.
Oui, touchés par cette guerre des prix qui fait rage depuis quelques années. Les cours du vin en vrac sont en chute libre et c'est le dossier de ce journal.
Oui, nous sommes en pleine période de foire au vin et en grande surface, vous êtes peut-être déjà tombé sur des bouteilles de Bordeaux à moins de 2 euros. En fait, les vignerons sont obligés ces derniers temps de brader leur vin. Écoutez Franck Dufis qui est installé en Gironde.
Si on remonte 3 ans en arrière, on vendait sur une base de 1300-1400 euros le tonneau. Depuis 2 ans, les cours se sont écroulés, 700 et 800 maximum.
Si je tombe sur votre vin, il fera partie de ces bouteilles qu'on vend vraiment pas cher, moins de 2 euros?
Oui, oui, dans les supermarchés, la bouteille de mon vin, oui. Je l'ai vu exactement à 1,67 €. On a l'impression de travailler pour rien, on s'en sort plus. Hein. C'est quand même du bon vin. Les vignes, on peut même plus les passer à un voisin en fermage parce qu'ils n'en veulent plus. Même gratuitement, ils ne les veulent plus, les vignes. Donc soit on va tout arracher ou vendre. Déjà, on a commencé à mettre en vente les bâtiments d'un côté, les vignes de l'autre, parce que si on ne fait pas ça, on va être saisi. Il reste que ça, cette solution, vendre ou être saisi. La crise s'est accentuée, mais depuis 3-4 ans, on sentait venir la chose.
Ça sera votre dernier millésime, là ?
J'espère pas, mais si quelqu'un achète de suite, là, oui, ce sera mon dernier millésime.
Après combien d'années dans cette vigne ?
31 ans.
Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans le Sud-Ouest. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de ce vigneron. Stéphane, dans la région, la politique de prix se généralise?
Oui, des prix cassés que dénoncent les viticulteurs. Une manifestation a notamment eu lieu devant un supermarché Lidl à Libourne. Le directeur des achats, Michel Biérot, dit comprendre cette colère, mais il rappelle, un, que d'autres enseignes font la même chose, deux, qu'il y a une explication économique.
Le Bordeaux Vrac, tout le monde le vend à 1,69 € depuis des mois et des mois. Je veux bien remonter le prix, mais est-ce qu'on va en vendre autant de volume? Il faut savoir qu'on a écoulé plus de 500 000 bouteilles la semaine en question. Si demain je mets la même bouteille à 2,99 €, je ne suis pas sûr de revendre 500 000 bouteilles. Lidl ne pèse que 6% du marché. Toute la distribution vend ce même prix de 1,69 € ou en dessous des 2 €. Il y a une réalité économique à cause de cette satanée crise. Les cuves des viticulteurs qui font du Bordeaux de Vrac sont pleines et ces volumes doivent être écoulés parce que la vendange prochaine arrive.
Et le directeur des achats de Lidl de préciser qu'il est prêt à s'asseoir autour d'une table pour envisager des solutions. Mais faut-il encore, insiste Michel Biérot, que tous les acteurs soient là?
On est 3 dans la partie. Il y a le viticulteur, il y a le négociateur, et il y a le distributeur. Le litre de vrac se négocie à 0,80 €. C'est pas moi qui fais le marché du vrac. Ça se discute entre les négociants et entre les viticulteurs.
Le directeur des achats de Lidl qui répondait à vos questions, Stéphane Place. Merci beaucoup.
Et bonjour Olivier Pouls.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes le chroniqueur gastronomique sur Europe 1. Vous êtes aussi dégustateur à la revue du vin de France. Quand on parle d'une bouteille à 2 €, est-ce que c'est forcément du mauvais vin?
Alors, évidemment, vous doutez bien que des vins à ces prix-là, ce ne sont pas les vins issus des plus grands terroirs de Bordeaux. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de faire techniquement des vins qui sont propres, buvables, loyaux et marchands, comme on dit. Mais il n'y a pas une émotion particulière qui va transparaître dans ces bouteilles. Ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est qu'en réalité, à ces prix-là, il y a un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens, des négociants ou des revendeurs de la grande distribution qui profitent d'une situation pour mettre la tête sous l'eau des vignerons qui produisent ces vins-là. Parce qu'à 2 €, ce n'est pas le prix que visent les vignerons. À 2 €, ils perdent de l'argent sur ces vins-là et ils vendent parce qu'ils sont contraints et forcés pour dégager un petit peu de trésorerie. Et c'est là qu'est le vrai problème.
Et ça pose évidemment la question de l'avenir de toutes ces exploitations. Est-ce qu'il faut, Olivier, que les vins de Bordeaux aujourd'hui se réinventent ?
Oui, ils doivent se réinventer parce qu'ils doivent aussi changer une forme d'image. Vous savez, quand vous êtes vendu à 2 € en grande surface, comment voulez-vous que l'image soit positive pour le consommateur ? Il faut que Bordeaux soit d'abord obsédé par la qualité. Les grands vins français et les vins français en général, mais Bordeaux ou ailleurs, ne s'en sortiront que par la qualité, que par une image perçue de vin de qualité, ce que nous sommes capables de faire. Brader du vin à 2 €, ce n'est bon pour personne. Et il faut, oui, que Bordeaux soit capable aussi de proposer peut-être des produits un peu différents, un peu moins standardisés, si on peut dire. Mais ça commence à venir.
Ouais, merci Olivier Pouls.
Eh bien, merci à vous, bonne journée.
Merci pour votre expertise. 8h09, vous restez avec nous dans un instant. On vous parlera des concerts tests que le gouvernement veut organiser. Ils sont sans cesse décalés. À tout de suite.
Europe 1.
Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de 8h de Marguerite Lefebvre. Ils étaient initialement annoncés pour le mois d'avril. Les concerts tests auraient déjà dû être organisés en France.
Oui, des concerts à plusieurs milliers de personnes pour estimer les risques de contamination au moment de la réouverture des salles. Décalé dans un premier temps au mois de mai. Aujourd'hui, c'est simple, on n'en entend même plus parler. Angèle Châtelier.
Les contours du concert test à Paris sont déjà fixés. L'idée, réunir 5000 personnes à l'Accor Hôtel Arena à Paris, debout, collées serrées, mais avec un masque et testées négatives. 2500 personnes restées chez elles feraient-elles aussi partie de l'expérimentation faite sous la houlette de la PHP pour savoir si réellement on se contamine en concert. Il y a deux mois, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé la tenue de ce concert test et un autre à Marseille. Et puis depuis, rien ne s'est passé. Mais est-ce encore bien utile d'y songer alors qu'Emmanuel Macron évoque une reprise progressive de la vie culturelle à la mi-mai et que la campagne de vaccination avance. Oui, nous répond Malika Seguino, directrice du Prodis, le principal syndicat du spectacle vivant travaille sur le concert test parisien.
Pour le moment, on ne parle surtout que d'une reprise de spectacle en jauge assise. Donc nous croyons effectivement que cette expérimentation a encore du sens pour cela, pour permettre la reprise de ces spectacles debout pour l'automne.
Pour l'heure, le protocole sanitaire du concert test à Paris a été déposé par l'APHP le 22 mars, puis a été examiné le 13 avril. Le syndicat a alerté Emmanuel Macron dans une lettre ouverte, lui demandant d'autoriser rapidement la tenue de cette expérimentation. Tandis qu'à Barcelone, un concert test a déjà eu lieu avec 5000 personnes.
Précision d'Angèle Châtelier, on en reparle avec le chanteur d'Indochine, Nicolas Sirkis, invité à 8h15.
Enfin le sport, et une fois n'est pas coutume, c'est de moto dont on va vous parler ce matin. Le Grand Prix de Portugal se tient cet après-midi. C'est une discipline peu connue en France, mais on a aujourd'hui deux jeunes pilotes, Fabio Quartararo et Johan Zarco, qui impressionnent sur le circuit. Axel May.
En Italie, il y a la star Valentino Rossi. En Espagne, il y a des champions du monde à l'appel, dont le casse-cou Marc Marquez. Dans l'Hexagone, la moto est encore un sport de niche. Claude Michi, le promoteur du Grand Prix de France, en mai, espère qu'avec le duo Quartararo-Zarco, la médiatisation de la discipline va grandir.
On n'avait pas de pilote français qui portait la victoire. Et c'est le résultat qui fait l'image du sport. Et en plus, bon, le sport mécanique, avec toutes les notions un peu écologiques et tout derrière, les médias ont peut-être un peu de mal. Mais là, maintenant, ils vont être obligés. Ils vont être obligés.
Vainqueur au Qatar il y a deux semaines, Fabio Quartararo s'élancera en pole position aujourd'hui au Portugal.
J'espère vraiment que le grand public commence à s'intéresser de plus en plus à la moto. En regardant la course du Qatar, sincèrement, c'était une course magnifique avec beaucoup de dépassements. Même quelqu'un qui n'aime pas la moto, je pense qu'il peut vraiment s'amuser à regarder ça.
Et du spectacle, il devrait y en avoir aujourd'hui. Johan Zarco, leader surprise du championnat en ce début de saison, sera en embuscade. Il s'élancera en troisième position sur la grille de départ.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Merci Marguerite, à tout à l'heure. À 9h pour le dernier journal de la matinale.